qu'on va reparler de tout plein de choses ce soir. On va parler donc de mobilisation lycéenne et étudiante, peut-être des sapeurs-pompiers. Nous aurons un invité par téléphone, puisque la technique va assurer là aussi. Ça sera un CGTiste de Sanofi. Nous parlerons donc industrie pharmaceutique ce soir. On parlera un petit coup de Bayer pour passer. Nous aurons peut-être un petit mot sur la lettre sur Dieu d'Einstein, vendue plus de 2 millions de dollars. Nous parlerons des GAFA de François Capaoré devant la justice. Et puis, je disais, nous rions un peu contre sur les gilets jaunes. Et peut-être nous aurons le temps de parler lecture. Mais d'abord, comme je le disais, on va d'abord un petit mot de mémoire. Souvenons-nous ce soir, Laurent.
Oui, on va se souvenir de quelque chose qui s'est passé il y a moult années, puisqu'on va revenir le 6 décembre, alors c'est aujourd'hui, me direz-vous, oui, mais on va revenir au 6 décembre 1986. C'est une chose importante, en fait, et qui trouve écho aujourd'hui dans ce qu'on peut vivre et ce que peuvent vivre certains et certaines, puisque, si vous vous rappelez, si vous étiez né, sinon vous avez peut-être vu ça, en 86, gros mouvement de la part des étudiants et des lycéens qui dénonce la loi Devaquet qui instaure la sélection à l'entrée de l'université. Donc il y a pas mal d'occupations à Paris, notamment sur la Sorbonne. Les ministres en charge du dossier, c'est le ministre de l'Intérieur, bien évidemment, Charles Pasqua, ministre très 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 à droite, accompagné de son double, Robert Pendreau. C'était un beau duo, Pendreau-Pasqua, qui était lui ministre délégué à la sécurité. Ils mettent en place des brigades de policiers qu'on va appeler les voltigeurs. Donc les voltigeurs, c'est un policier sur une moto, un deuxième derrière avec une matraque, et en avançant, il tabasse sur tout ce qu'il trouve qui peut ressembler de près ou de loin à un étudiant. Le 6 décembre 86, la situation est un peu tendue dans Paris. À minuit, Malik Oussekine sort d'un club de jazz. Il n'a rien à voir, du coup, avec un étudiant manifestant ou un lycéen manifestant, mais c'est pas grave. Il n'a pas la bonne gueule, faut dire que vous avez compris, il s'appelle Malik Oussekine. Donc les flics racistes le poursuivent. Il rentre dans un immeuble pour se protéger, parce que quelqu'un ouvre un immeuble quand il est poursuivi par la police. Et en fait, il se fait tabasser à mort. Il est mort dans l'immeuble. L'ambulance l'emmène quand même à l'hôpital pour pas qu'il y ait des gens qui viennent voir ce qui se passe, en fait. Et il est donc mort, assassiné par la police ce 6 décembre 1986, en marge du coup des manifestations étudiants-lycéens auxquelles il ne participait pas, mais ceci dit, même s'il y participait, il n'aurait pas mérité la peine de mort appliquée par ses policiers sous les ordres de Pasqua Pendreau. Certains policiers seront condamnés un petit peu, très légèrement, et bien évidemment les vrais responsables, Charles Pasqua et Pendreau, ne seront jamais poursuivis pour avoir mis en œuvre ces brigades qui vont donc assassiner Malik Oussekine le 6 décembre 1986. Le lien aujourd'hui, il est évident puisque des lycéens et des étudiants se mobilisent à nouveau contre des lois qui ont mis en place, alors dès l'année dernière, la sélection à l'université. Elle se fait à travers un truc qu'on appelle Parcoursup. Donc ça a pas mal bougé encore. Alors ça a commencé vendredi officiellement, mais on n'avait rien vu vendredi dernier. Et lundi, ça a commencé à bouger un petit peu dans les lycées de France, un peu partout. Assez peu hein, au global par rapport au nombre de lycées, mais suffisamment pour être visible. Aujourd'hui, ça a continué, toujours à peu près aux mêmes endroits, le Colbert dans le 8e, dans le 7e aussi, un peu à Rieux, à Douaneau, à Vau-en-Velin, à Brossolette, à Villeurbanne aussi, à Vénissieux. Voilà. Et ce qu'on note, c'est une répression très très forte, très violente de la part des forces de l'ordre. Vraisemblablement, on a l'impression qu'ils cherchent à retrouver, à reproduire un nouveau Malik Oussekine, ce qui est assez incroyable quand on regarde l'histoire, parce que suite à ça, ben, le gouvernement est obligé de reculer à l'époque sur la réforme qui a été abandonnée à l'époque. Et puis, voilà, le côté répressif avait été bien évidemment trop fort. Là, ce gouvernement, vraisemblablement, connaît pas mal l'histoire, en tout cas, et ils sont remis à fond dans la répression. La répression qui va très très loin, qui est d'abord une répression violente, et qui est ensuite une répression judiciaire, puisque pas mal de lycéens sont déjà passés en comparution immédiate. On a eu par exemple à Bourgoin-Jallieu carrément 6 mois de prison ferme C'est quand même un truc assez incroyable. On a aujourd'hui, autre exemple, à Mantes-la-Jolie, 146 étudiants lycéens arrêtés. Enfin, c'est un truc vraiment incroyable. Il y a une répression très très forte de ce mouvement. Alors, il y a eu des tentatives de rencontre, hein, puisqu'officiellement hier, Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, a reçu les organisations lycéennes. Vraisemblablement, c'était un dialogue de sourds, puisque toutes les revendications des lycéens sont rejetées en bloc par le gouvernement, qui n'en a rien à faire de ce que peuvent dire les lycéens. Pourtant, ce qu'ils réclament, c'est plutôt assez logique, assez justifié. Donc la fin de la sélection à l'entrée de l'université, avec la suppression de Parcoursup, et l'arrêt des réformes du lycée et du lycée général et du lycée professionnel. Alors on rappelle hein, les enjeux. Donc sur Parcoursup, ça découle là, de la loi qui était passée l'année dernière sur les universités et sur l'éducation nationale, avec les premières lois de la LRU avant sur la fac, là, avec l'autonomisation notamment des universités. L'idée, c'est de sélectionner le plus tôt possible. Jusqu'à maintenant, la sélection, elle se faisait plutôt au niveau du bac plus 2, hein, sur la fac. Là, on est rentré dans une sélection dès le bac, avec des critères incompréhensibles pour les élèves, et surtout, non seulement incompréhensibles, mais non officiels, hein, puisque les sélections sont faites par les universités, par exemple, et aucun des critères n'est donné. Donc voilà, il y a la réforme du bac qui est rejetée par les lycéens, et donc bon, voilà, je vais pas tout détailler parce que a priori bref, ils ont de bonnes raisons d'aller manifester. On change de sujet.
Alors, il y a aussi plein de gens hein, qui, du coup, sont aujourd'hui en mouvement, qui sont pas forcément liés aux gilets jaunes, ou qui pourraient peut-être s'y reconnaître. À la rigueur, finalement, on s'en fiche un peu. Mais par exemple, il y avait les sapeurs-pompiers professionnels de la métropole de Lyon qui se sont mis en colère ce jeudi. Alors, il y a un préavis de grève qui court jusqu'au lundi 10 décembre 2018, donc qui va encadrer hein, toute cette fête de la lumière. Alors, ce qu'on en sait, c'est qu'ils se sont mis en arrêt maladie, ces braves pompiers. C'est une manière hein, de dire stop, on n'en peut plus. Alors, selon le Sud Solidaire, des chiffres, c'est entre 25 et 40% des effectifs qui sont en arrêt maladie, ce qui est quand même pas mal. Alors, il faut savoir qu'évidemment, ces sapeurs-pompiers sont réquisitionnés. Vous inquiétez pas, si vous avez quelque chose, il y a des interventions d'urgence qui sont assurées. C'est quand même aussi des professions, des secteurs d'activité particuliers dans le cadre de la grève. Alors, évidemment, pourquoi vous allez me dire ils font grève? Parce qu'il y a un manque d'effectifs, hein. Voilà, il y a une fatigue qui se met, il y a le mot burn-out qui revient hein, dans leurs propos. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a une petite critique aussi parce qu'on les réquisitionne, ces sapeurs-pompiers, et en même temps, il y a pour l'instant des syndicats qui sont chargés de vérifier avec des huissiers si le repos minimum de 11 heures est respecté, parce que là on demande à des agents de contourner, d'être là tout le temps finalement, et donc c'est aussi des gens qui peuvent se mettre en danger sur une intervention et qui peuvent nous mettre en danger en intervention quand on a besoin d'être secouru. En tout cas voilà, à travers tous ces mouvements en France, il y en avait un qui était juste à côté de chez nous, c'est les sapeurs-pompiers professionnels de la métropole de Lyon. Alors on vous a annoncé, si vous l'avez entendu dans les bop-bop de tout à l'heure, 4 minutes difficile à vivre, il faut bien le dire. Nous vous avons annoncé qu'on avait invité par téléphone, il n'est pas dans nos bureaux, nos locaux, un cégétiste syndicaliste de Sanofi, vous savez l'industrie pharmaceutique, et qu'on lui a proposé de nous raconter ce qui se passe là-bas, parce qu'apparemment il y a encore du dégraissage, comme on dit, et donc Laurent l'a appelé au téléphone, et donc il est avec nous.
On va essayer de le prendre à l'antenne.
Et hop là, et nous y allons. Bonjour à toi.
Allô,
Fabien, ah, nous t'entendons.
Allô.
Nous on t'entend en tout cas.
Alors moi je vous entends pas du tout.
Ah bah mince alors, parce que tu as, j'imagine, ta petite radio à côté, donc tu sais que on te cause, hein. Ça là là, qu'est-ce que c'est drôle la technologie. Alors est-ce que tu nous entends?
Je vous entends très loin, mais on va se débrouiller comme ça.
On va se débrouiller. Alors ouais. Écoute, merci d'être avec nous à distance, et encore plus à distance, puisque tu fais un effort pour essayer de nous entendre malgré nos petits problèmes techniques. Après, nous, on doit dire qu'on ne fait pas souvent ça, le téléphone, ouais. Quand même. Alors, on t'a proposé de venir nous raconter ce qui se passe à Sanofi, parce qu'on a cru comprendre qu'il y avait des licenciements.
Eh ben en fait, déjà on va peut-être recaler ce qu'est Sanofi pour les gens.
Et tout à fait, on peut commencer par ça.
Donc avec 35 milliards de chiffre d'affaires et 8,5 milliards de bénéfices.
C'est beaucoup.
L'année dernière, c'est énorme. À peu près une rentabilité pour les actionnaires, comme on dit, d'environ 16% par an. Donc voilà. Régulièrement, chez Sanofi, ils mettent en place des plans de restructuration, enfin, ils appellent ça comme ça. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire qu'ils tuent l'emploi, hein, tout simplement. Et ils nous viennent de nous annoncer le plan Horizon 2020, puisque chez Sanofi, les plans ont toujours une très belle dénomination, qui va donc impacter, comme ils disent, 670 emplois et 80 emplois qui vont être revendus, entre guillemets, à un sous-traitant. Ça fait donc en tout 750 emplois qui vont être supprimés d'ici 2020 chez Sanofi en France.
Alors, le groupe fait quand même, a l'air de bien marcher, puisque moi j'ai lu que l'année dernière, ils avaient fait 8 milliards de bénéfices, cette année déjà 4 milliards. Comment t'expliques les choses? Pourquoi ils ont besoin d'encore donner plus d'argent aux actionnaires?
Bah, en fait, pour nous, c'est exactement ça, parce qu'en réalité, il n'y a pas de difficulté pour Sanofi, hein, très clairement, c'est une boîte qui va bien. Simplement, les actionnaires sont pas contents parce qu'ils trouvent que pour une entreprise de la pharma, elle rapporte pas assez par rapport aux autres, hein, aux deux premiers, plus précisément. Et donc, du coup, ben, il faut dégager des marges, comme dirait notre grand patron, pour aller arroser un peu plus les actionnaires. Donc, du coup, clairement, c'est une décision qui est prise pour aller taper dans la masse salariale et transférer une part de la masse salariale sur les actionnaires, ni plus ni moins. Et ce qui est choquant, c'est que ça touche la France, ça touche le monde entier, parce que c'est les fonctions support qui sont aujourd'hui visées. Donc les fonctions support dans l'industrie pharmaceutique, c'est tout ce qui est RH, achat, informatique, voilà, donc c'est assez large. Et donc là, on parle de 750 personnes en France. Ils ont refusé pour l'instant de donner les chiffres au niveau mondial, mais il y a déjà des bruits de couloir qui laissent entendre qu'il y aurait plus de 2000 emplois supprimés au niveau mondial, donc sur les 110 000 emplois actuels au niveau monde et 25 000 en France.
Alors, on aurait pu dire aussi que tu as un cégétiste local.
Hein, oui, je ne me suis pas présenté d'ailleurs, du coup, avec vos problèmes techniques. C'est un peu
compliqué. Oui, c'est vrai qu'on est nous-mêmes, on est un peu survolté.
Donc, du coup, ouais, enfin, moi, je suis délégué syndical du site de Neuville-sur-Saône, Sanofi Pasteur, donc du coup, qui fait la branche vaccin de Sanofi, et voilà, mais je me prénomme Fabien. Voilà.
Et ça veut dire qu'ici, aussi au niveau local, il y a un impact ou est-ce qu'il y a des pays qui vont être plus touchés que d'autres, d'après ce que
Alors,
vous en savez?
Il y a un impact au niveau local, mais plutôt sur Marcy-l'Étoile que sur mon site à moi. Voilà, parce que c'est là-bas que se trouve. Et sur Carteret, en fait, qui est le siège de Sanofi. Alors, pour ceux qui ne voient pas où est Carteret, c'est à Gerland, en fait, à côté de la Confluence. Voilà. Et c'est eux qui vont être le plus impactés directement. Et ce qui est compliqué, c'est que Sanofi, c'est plein de filiales, donc c'est un peu dur de voir où ça va taper réellement d'un coup. Ce qui est certain, c'est que la plus grosse filiale qui va être impactée, c'est l'informatique chez nous, quoi.
C'est-à-dire, mais du coup, ça va amener quoi dans les conditions de travail quand on se dit, parce que moi, par exemple, c'est un secteur d'activité que je connais pas, je me dis, on touche à l'informatique, est-ce que c'est grave, pas grave, est-ce que ça gêne la production, ou est-ce que c'est juste des problématiques, je mets des guillemets autour du mot juste, sur vos conditions de travail, ça veut dire quoi, par exemple, sur l'informatique concrètement?
Alors là, il y a une double problématique. D'abord, faut savoir que l'industrie pharma, c'est une des industries les plus automatisées du monde. Donc, on imagine bien quand on touche à tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, l'informatique, la domotique et la robotique, ben en fait ça va forcément impacter sur la production aussi, parce qu'en fait on perd des capacités en interne et on va aller les sous-traiter à des sociétés qui vont faire du mieux disant, comme on dit en capitalisme, donc en gros faire du moins cher possible. Et le problème, c'est que bah, on sait que les personnes qui sont embauchées dans ces sociétés-là ont des conditions de travail qui sont bien moins bonnes que celles qui sont chez Sanofi. C'est une réalité, même si ça se dégrade énormément chez Sanofi aussi, d'ailleurs, au passage. Donc, du coup, bah, en fait, c'est un jeu de domino. Et par cet effet-là, en fait, ça risque d'impacter à terme, de toute façon, l'ensemble de Sanofi et pas uniquement le secteur informatique. C'est un peu, enfin, pour faire simple, c'est un petit peu les gens, c'est un peu comme votre mécano pour la voiture, quoi. C'est-à-dire que si vous n'avez pas un bon mécano, vous faites réparer votre voiture 10 fois, vous la faites réparer une fois, quoi. Bah, c'est exactement le même principe parce que nous, l'informatique, c'est au cœur du métier aujourd'hui.
Alors qu'ils ont déjà beaucoup délocalisé en Inde hein, sur la production des logiciels.
Ah, j'entends pas du tout la question, je suis désolé.
Alors la question c'était, je sais pas si de mon côté ça va mieux marcher. Hein.
Ouais. Ils ont déjà beaucoup délocalisé en Inde sur la production du logiciel.
Ouais, tout à fait. Mais ça en fait c'est assez, c'est propre à toutes les grandes multinationales. Elles ont tendance à sous-traiter à des gros groupes qui sont elles-mêmes des multinationales pleines de filiales et ainsi de suite pour diviser les coûts. Parce que l'idée c'est de ne pas avoir les gens en interne, de pas être sur de la masse salariale comme ils disent, mais d'être sur des contrats de type marchand quoi. Et donc ça permet de délocaliser. Et c'est comme ça que Sanofi se retrouve d'ailleurs des fois à travailler avec des startups ou à travailler avec des auto-entrepreneurs. C'est le but étant de ne surtout pas payer trop de cotisations sociales parce que ça c'est mal.
Ouais. Alors du coup ils mettent en place une rupture conventionnelle collective. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? C'est un truc que Macron a fait passer il n'y a pas bien longtemps.
Ben oui, c'est ça. C'est ce qu'il y avait dans les ordonnances Macron, hein, ce qu'on a combattu quand même. C'est l'idée qu'on peut faire aujourd'hui une rupture conventionnelle collective. Alors, rien que le nom est assez improbable. Mais en gros, c'est vous mettez les syndicats autour d'une table, vous dites on va virer les gens sur le volontariat, mais en faisant un chèque un petit peu plus élevé que ce qu'ils auraient touché si on les licenciait. Alors c'est jamais des grosses sommes, hein, je vous rassure. Et du coup, on se tient là-dessus, et ceux qui veulent viennent et prennent le chèque et s'en vont. Alors le problème, c'est que pour être sûr d'avoir des volontaires, on sait comment ça marche, il suffit de dégrader les conditions de travail des gens pour que les gens s'en aillent. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus. Les fonctions support chez Sanofi en sont à leur 5e restructuration. Ils déménagent régulièrement, ils changent de locaux, ils changent de mission très régulièrement, ils changent de hiérarchique. Donc forcément, les gens ne sont pas très bien dans leur travail, c'est normal, ils sont pas très à l'aise. Donc des volontaires, c'est comme ça qu'on les crée, quoi. Et donc oui, c'est une rupture conventionnelle collective, donc ils appliquent les ordonnances Macron plus vite que la lumière, quoi. C'est-à-dire que je crois que le décret a dû sortir il y a quelque chose comme 2 mois, et voilà, quoi.
Ouais, et j'ai vu aussi que une des techniques, c'est de supprimer les postes en fait. Donc, du coup, les salariés se retrouvent sans affectation, et après, on leur envoie cette rupture conventionnelle. Est-ce que vous êtes d'accord pour partir? C'est une des pratiques mises en œuvre, j'ai l'impression, pour aider hein, ou pour pousser le volontariat.
Oui, il y a ça, et puis il y a aussi le côté géographique. Hein. Il suffit de dire à quelqu'un. Ouais. Ton poste part de Paris vers Lyon ou de Lyon vers Paris et généralement les gens changer de vie du jour au lendemain, ils ont parfois et souvent du mal et ça se comprend. Et donc du coup ils vont dire non, je préfère partir, quoi. En fait c'est très simple de mettre la pression sur les gens pour qu'ils acceptent de partir. C'est ce qu'on dénonce, c'est qu'en fait on est dans, encore une fois, on sait que ça va, en plus ça va se faire de gré à gré, parce que même si ça porte le nom de collectif, ensuite ça redescend au niveau de l'individu, de la personne, et c'est un contrat de gré à gré avec les services RH de Sanofi. Du coup ça les isole totalement. Et surtout, je vous rappelle que quand on signe une rupture conventionnelle, on ne peut pas attaquer derrière l'entreprise avec qui on a signé cette rupture. Et donc le but pour Sanofi, c'est d'être tranquille derrière.
Oui. Et alors, est-ce qu'il y a des mobilisations à Sanofi? Est-ce qu'il y a des choses de prévues?
Alors aujourd'hui, il y a un syndicat, la CGT, qui appelle à une grève le 11. On espère être rejoint par d'autres, honnêtement, parce que c'est quand même le 7e plan de restructuration en 9 ans. Donc ça nous paraît être un petit peu plus que chaotique. Et puis surtout c'est très violent parce qu'encore une fois les gens ont appris ça dans la presse dimanche avant même que les salariés ne soient, enfin même leurs représentants ne soient convoqués. C'est le journal du dimanche qui a sorti l'information. Donc les salariés sont encore une fois prévenus avant même que ce soit dit dans l'entreprise. Et on voit que là aussi c'est une méthode de pression assez forte, quoi. C'est quand vous êtes chez vous et que vous apprenez ça sur Internet, par exemple, c'est un peu hyper violent, quoi. Et du coup, ça crée un sentiment d'angoisse et ça pousse les gens en fait à accepter tout et n'importe quoi assez rapidement, quoi, parce que c'est la panique quand c'est comme ça. Et oui, donc voilà, donc nous on appelle à une mobilisation le 11 pour l'emploi, voilà.
Alors, je sais pas, j'imagine qu'en tant que syndicaliste, tu as vu que chez Bayer, il y a eu la semaine dernière un communiqué hein, qui annonce que 12 000 postes vont être supprimés d'ici à 2021, en particulier en Allemagne. On est là aussi dans une restructuration. Alors c'est Monsanto hein, là, du côté de Bayer qui plombe un peu les comptes. On sait aussi que Bayer va pas très bien, qu'il y a un manque de confiance, que hein, vous avez entendu tous et toutes qu'il y a eu ce jardinier de Dwayne Johnson qui a obtenu des millions contre Monsanto Bayer pour l'utilisation du Roundup. Il a accusé à Monsanto de, à cause du Roundup d'avoir eu un cancer. Il a gagné. Est-ce que là aujourd'hui il y a des liens de mouvement entre ce genre d'entreprise, entre Bayer et Sanofi par exemple, ça existe?
Bah, pas vraiment, parce qu'en fait les industries de la pharma et de la phyto vont plutôt mal en termes d'emploi ces dernières années. Alors pour deux raisons. Hein. La première, c'est d'abord une mondialisation et qui est pas. Moi, je suis pas du tout contre le fait que tout le monde travaille. Sauf que du coup, tout le monde travaille pas parce que du coup, on fabrique un peu partout et on s'arrange surtout pour que on fabrique là où c'est le moins cher et là où il y a le moins de contraintes pour ensuite y ramener sur des marchés où c'est plus contraignant. Et ça, c'est une problématique du fait qu'on n'ait pas de mouvement unifié syndical au niveau européen au moins, et mondial, c'était mieux. C'est qu'en fait, du coup, on a du mal à agir tous en même temps. Et si au niveau européen ou aux États-Unis ou même au Japon, aujourd'hui, en fait, il y a une baisse d'activité qui est créée parce qu'on va produire ailleurs. Et voilà, et du coup on essaye de mettre en concurrence les salariés les uns avec les autres, mais en fait en réalité on fait surtout monter les profits parce que c'est ça le but, et il n'y a pas à mettre les gens en concurrence les uns avec les autres, parce que finalement il y a du travail, il y en a pour tout le monde si on le divisait et si on travaillait moins. Mais surtout la grosse difficulté qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui justement il n'y a plus de passerelles, c'est-à-dire que les gens qui perdent leur emploi dans le secteur de la pharma ou dans le secteur de la phyto en France, ont du mal à retrouver des employeurs, parce que sur le au niveau européen il n'y a plus vraiment de passerelle entre les entreprises, quoi, donc parce que tout s'effondre petit à petit, quoi. Et il y a un deuxième phénomène, c'est aussi je le disais l'automatisation. Plus vous automatisez, moins vous avez besoin de monde, donc forcément il y a cette problématique là aussi à prendre en compte. Et comme pour l'heure on a tendance à augmenter le temps de travail par semaine et à augmenter le nombre d'années où on reste jusqu'à la retraite, ça va pas résoudre de l'équation, quoi.
Laurent, est-ce que tu avais une dernière question? Fabien, est-ce que tu as quelque chose à nous préciser sur sur ce qui s'annonce,
moi,
ce plan Horizon?
Juste une chose à dire, c'est qu'aujourd'hui il y a des mouvements de gens qui gueulent parce que il y a trop de taxes ou trop de choses comme ça. Moi, je voulais juste rappeler que Sanofi ne paye quasiment pas d'impôts en France. Quand même, malgré ses 8 milliards de bénéfices, hein, c'est à peine 8% d'impôt sur les sociétés, Sanofi, et que chaque année, Sanofi touche à peu près 150 millions de CICE, c'est-à-dire c'est des crédits d'impôt qui lui sont versés pour la recherche et l'emploi. Donc je vous laisse faire les calculs de ce qu'on pourrait récupérer sur une multinationale comme Sanofi pour permettre d'avoir une sécurité sociale à 100%, par exemple. Voilà, juste ça.
D'ailleurs, c'est le problème de Bayer aujourd'hui qui dit que va perdre des droits exclusifs sur ses médicaments phares, et donc va voir potentiellement d'autres entreprises se saisir de ses brevets, donc de pouvoir les produire. On sait que depuis longtemps, il y en a aussi des entreprises qui verrouillent certains médicaments qui pourraient être moins chers, qui pourraient être distribués plus facilement, et qu'on a des entreprises qui en ont profité, qui aujourd'hui semblent vouloir nous faire croire que si elles n'arrivent plus à garder leurs salariés, c'est parce que le droit les empêche de conserver ces brevets exclusifs et à vie.
Là, je peux éclairer ça. C'est vraiment du foutage de gueule, parce que rien n'empêche une entreprise, même si elle est obligée de céder son brevet à d'autres pour faire ce qu'on appelle du médicament générique, rien n'empêche de continuer à produire le médicament pour autant. Hein.
On est d'accord.
C'est un choix après de ne pas le faire. Et ça, c'est un choix purement économique, parce que c'est des médicaments qui rapportent moins. Et donc, du coup, on s'y intéresse pas, quoi. C'est tout. Mais en fait, en réalité, rien n'empêcherait la production là où elle était avant, quoi.
Eh ben merci Fabien de t'être exprimé en tant que délégué syndical donc chez Sanofi Pasteur.
Et on t'accueillera à nouveau par téléphone ou dans nos locaux avec grand plaisir.
Promis, j'essaye de me déplacer la prochaine fois. Merci à vous en tout cas, ça fait du bien de pouvoir avoir antenne quelque part pour parler de tout ça.
Et ben courage dans la lutte, merci beaucoup.
Merci, bonne soirée.
Bonne soirée.
Alors on va donc continuer après cette chouette interview et puis je vais vous parler tout autre chose, comme ça on va changer de sujet. Ouais. Hein, non mais complètement. Alors oui et non, puisqu'on va continuer de parler d'un scientifique. Einstein, ça vous dit quelque chose? Prix Nobel de physique? Non, ça vous dit quelque chose? Albert, de son petit prénom. Eh ben, on va parler pas tant de science que d'une lettre qu'on a fini par appeler la lettre sur Dieu, God Letter in English, qui a été mise aux enchères ce mardi chez Christie's à New York. Et alors, bon, elle avait été estimée en $1,5 million. Ça fait 800 000 euros, hein, quand même. Hein, 880 000 euros. Allez, je vais essayer d'ajuster. Et alors, je vous disais, ça a atteint une très, très, très belle somme, cette lettre. Alors, évidemment, c'est la lettre originale. Hein, c'est pas une vague photocopie. $2,890,000.
Hein. Je suis pas sûr que quand il a écrit cette lettre, je sais pas pourquoi il l'a écrit.
Alors, je vais vous raconter. Ouais. Comme ça, c'est l'occasion d'y revenir.
Ça. Il avait imaginé que ça vaudrait un jour de l'argent.
Je crois pas. Je vous rappelle que une prix Nobel de physique en 1921, c'était il y a longtemps. Donc, alors, c'est une lettre qui était apparue dans le paysage des enchères en 2008 à Londres. Elle était a priori dans les mains des héritiers de Gunkind, à qui s'adresse cette lettre. Et puis, ils avaient essayé de la mettre en vente. À l'époque, ça s'était vendu un peu plus de $400,000. Et puis, là, c'est revenu sur donc le devant de la scène. Et ça a été vendu donc à un prix absolument incroyable. Alors, c'est une lettre donc rédigée en allemand au philosophe Erich Gunkein, auteur d'un ouvrage qui s'appelle « Choisir la vie, l'appel biblique à la révolte ». Et ce philosophe cite souvent Einstein dans son ouvrage. Ce qui a eu a priori le don d'agacer un tout petit peu Albert, qui donc lui a répondu par une lettre. Alors il faut savoir que Albert Einstein était un scientifique, et que gamin, il était très croyant.
Non mais il l'est resté même en tant que scientifique. Hein.
Alors oui, mais cette lettre elle est quand même intéressante, je vais vous
elle
lire un petit bout. Alors j'ai perdu la date, c'est ce que je suis en train de rechercher, et c'est ça que j'ai pas retrouvé, 1955 pardon.
Oui.
Juste avant sa mort. Hein. Donc il était quand même un bout aussi de sa réflexion intellectuelle. Alors il a été très très croyant. La légende veut même qu'il a été beaucoup plus croyant que ses parents et qu'il les ait beaucoup engueulés quand il était petit pour dire qu'ils étaient pas assez croyants. Et donc il va écrire cette lettre. Alors voilà, il veut parler et il va lire hein, l'ouvrage d'ailleurs de Gunkind, et il lui dit à un moment « Le mot Dieu n'est pour moi rien d'autre que l'expression et le produit des faiblesses humaines, et la Bible un recueil de légendes vénérables, mais malgré tout assez primitives. Aucune interprétation, aussi subtile soit-elle, n'y changera rien pour moi. Ces interprétations raffinées sont naturellement très diverses et n'ont pratiquement rien à voir avec le texte original. » Ensuite, Albert Einstein était juif. Il écrit « Pour moi, la religion juive est, comme toutes les autres religions, l'incarnation d'une superstition primitive. Et le peuple juif auquel j'appartiens fièrement et dont je me sens profondément ancré à la mentalité, n'a pas pour autant une forme de dignité différente des autres peuples. Au vu de mon expérience, ils ne sont pas meilleurs que les autres groupes humains, mais s'ils sont protégés des pires excès par leur manque de pouvoir. Sinon, je ne perçois rien d'élu chez eux. » Voilà, donc c'est-à-dire que dans cette lettre, il réexplique quand même des choses sur Dieu qui sont quand même assez fortes, oui. Et c'est à la fin de sa vie.
Oui, parce qu'on se rappelle hein, qu'au moment de la physique quantique, Einstein, donc, il travaille sur l'attraction, il découvre, donc on sait que la vitesse de la lumière est finie, du coup ça veut dire que si on voyage très vite, la notion de temps change, et on a cette théorie de la relativité qui dit que le temps ne vaut pas toujours la même chose de partout. C'est une révolution hein, pour l'époque. Donc il casse tout, finalement, la physique construite par Newton. Mais va arriver très peu de temps après sa théorie de la relativité, la physique quantique, la découverte de la physique quantique, où la notion de hasard intervient. Et là, ses croyances vont l'amener à dire des bêtises, à rejeter la physique quantique. Il va dire, par exemple, cette phrase ultra célèbre, c'est pas possible que ça marche, en fait, parce que, je cite, « Dieu ne joue pas au dé ». Il remet, alors, c'est malencontreux son expression, il va avoir du mal avec la physique quantique, alors qu'on sait que ça marche hein, depuis. Mais effectivement, la notion de hasard, elle existe en physique quantique à l'échelle donc des atomes et encore plus petit. Et voilà, moi j'ai toujours trouvé ça drôle que son, voilà, quelque part son éducation et ses croyances l'amènent, se lui servent d'argument pour rejeter une théorie scientifique qui va s'avérer juste, comme quoi on n'est pas bon dans tous les domaines.
Alors je vais juste préciser, il est mort en 55, la lettre elle date du 3 janvier 54, donc c'était quand même à la fin de sa vie, oui. D'une certaine réflexion, hein, il faut aussi le préciser parce que ça a vraiment été écrit comme tel.
Oui, il a progressé beaucoup.
Ah bah oui, oui, mais on progresse tous, hein, jusqu'à la fin de notre vie, c'est là encore la preuve. Il termine, enfin, en disant, je vais lire un petit peu à la fin, « D'une manière générale, cela me blesse de revendiquer une position privilégiée et d'essayer de la défendre par deux murs de fierté, un mur extérieur en tant qu'être humain et un mur intérieur en tant que juif. En tant qu'être humain, vous affirmez en quelque sorte être dispensé d'une causalité que vous accepteriez autrement et en tant que juif, vous revendiquez un statut privilégié pour le monothéisme. Mais une causalité limitée n'est plus du tout une causalité. » Comme notre merveilleuse Spinoza l'avait reconnu le premier avec une clarté absolue. Et la conception animiste des religions naturelles ne peut pas être, en principe, être annulée par ce monopole monothéiste. Avec de telles barrières, on ne peut que s'auto-aveugler et nos efforts moraux n'y gagnent rien, bien au contraire. Mais Albert, il est ouvert quand même. Maintenant que j'ai exprimé ouvertement nos différences de convictions intellectuelles, écrit-il, il m'est toujours clair que nos pensées sont très proches les unes des autres concernant l'essentiel, c'est-à-dire notre évolution du comportement humain. Ce qui nous divise, ce sont seulement nos outils intellectuels ou la rationalisation en langage freudien. Je pense donc que nous nous comprendrions très bien si nous discutions de choses concrètes. Avec mes sincères remerciements, mes meilleurs voeux, bien à vous, Albert Einstein.
Donc cette lettre vaut 202,89 millions.
C'est ça, exactement.
Bon, j'ai une info toujours en lien avec la santé et la recherche. Et voilà, j'éternue. Sur un médecin qui est condamné pour la première fois. Et c'est une condamnation symbolique, mais hyper importante. C'est la chambre disciplinaire du Conseil de l'Ordre des médecins. Hein, vous savez, ce truc créé il y a quelques années sous Pétain de mémoire. Qui a émis un avertissement à l'encontre d'un médecin appelé dans les médias à parler en tant qu'expert. Donc il s'appelle Robert Cohen, il coordonne le réseau InfoVac, qui est une association qui propose informations et conseils sur les vaccinations. Un truc plutôt sérieux et plutôt bien, InfoVac. Voilà. Le problème, c'est que ce petit médecin, il est aussi rémunéré par Pfizer, par Sanofi, GSK, les gros producteurs de vaccins. Ah, ça coince. Si on veut défendre le vaccin, il faut pas être payé par l'industrie du vaccin, sinon c'est moche. Hein. Donc il a fait ça, il a été invité dans plein de médias lors de la campagne de vaccination, d'augmentation de vaccination, les fameux 10-11 vaccins là, pour les enfants qu'avait mis en place la ministre il y a quelques temps. Et c'est une association qui s'appelle E3M, qui est une association anti... Alors, qui n'est pas une vraie association totalement anti-vaccin, mais qui est contre la présence de certains adjuvants comme l'aluminium, mais qui remet pas en cause le principe de vaccination, contrairement aux autres anti-vaccins. C'est eux qui étaient allés devant le Conseil de l'Ordre des médecins en disant, bah, il y a un problème. Il y a un conflit d'intérêts, ce qui est vrai. Et pour la première fois, il y a eu une sanction. Certes, c'est une sanction ultra légère, parce que c'est un blâme. Tu sais, je ne sais même pas si c'est un blâme, enfin, c'est un truc, on lui dit c'est mal ce que tu as fait. Il n'y a pas, pas d'autre chose hein, derrière. Il n'y a pas d'interdiction d'exercice, tout ça. Mais c'est la première fois quand même que le Conseil de l'Ordre des médecins utilise le problème du conflit d'intérêts pour condamner un de ses adhérents en disant, bah non, tu es rémunéré par l'industrie du vaccin, tu ne vas pas faire la promo du vaccin, puisque ton discours, il est forcément pas bon. Voilà. Donc c'était plutôt une bonne nouvelle. Donc maintenant, il faudrait que ces conflits d'intérêts disparaissent de partout pour que ceux qu'on qualifie d'experts soient vraiment indépendants. Ça serait un petit peu pas mal, puisque comme on les qualifie d'experts, forcément, leur parole vaut des millions, et c'est-à-dire que bon, bah, on est censé les croire. Voilà. Alors, je vais continuer avec l'actualité plutôt économique et numérique, on va dire. On va parler des GAFA. Donc, je rappelle, les GAFA, c'est les géants du numérique. Google, Amazon, Facebook et Apple et puis les autres, hein, Twitter, tout ça là. Donc c'est le ministre de l'économie et des finances de la France, Bruno Le Maire, qui a annoncé aujourd'hui, dans une espèce d'envolée lyrique, attention, si l'Europe ne taxe pas les GAFA, nous, la France, on va taxer les GAFA. Il dit, je cite, voilà, non, je ne vais pas citer, je le laisse jusqu'au mois de mars pour que la Commission européenne taxe les GAFA. On va revenir sur ce qui est en jeu et ce qu'il y a dedans. Parce qu'en fait, comment dirais-je ? Sans dire qu'il ment, il affabule beaucoup, monsieur le maire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans la proposition actuelle sur les GAFA, alors il faut savoir qu'il y a une lutte au sein de l'Europe. Tout le monde n'est pas d'accord. Au départ, il y avait une proposition qui était plutôt pas mal. On taxe à 3% de hauteur du chiffre d'affaires les GAFA au niveau de l'Europe, parce qu'ils échappent à l'impôt, etc. Donc le problème, c'est que ça fait débat. L'Allemagne n'était pas d'accord. Alors depuis, l'Allemagne est un peu pliée. Il reste l'Irlande, la Suède, le Danemark et la Finlande qui ne sont pas d'accord. Et là, il y a eu discussion et un nouveau texte est proposé. Un nouveau texte que valide M. Le Maire, qu'il défend, mais qui est un texte en forme d'entourloupe. Puisque cette fois-ci, les GAFA ne seront plus taxés à 3% du chiffre d'affaires, mais du chiffre d'affaires des publicités. Ce qui fait que Amazon et Apple, qui n'ont pas de pub, ils échapperont aux taxes avec la nouvelle proposition de loi. Tout ça pour amadouer notamment l'Irlande. Mais du coup, M. Le Maire, il défend cette nouvelle proposition ridicule, qui ne va pas taxer les GAFA, mais qui va en taxer que quelques-uns. Et il a fait son envolée lyrique en faisant croire que ce qui était en jeu était très bien, et en fait, ce qui est en jeu, c'est juste ridicule. Aujourd'hui, tout le monde a abandonné une vraie taxation de ces multinationales du numérique. Et M. Le Maire, comme les autres, ils sont là pour une pseudo-taxation, c'est-à-dire on fait un truc symbolique pour que le peuple soit content, en gros, ou que les gens soient contents, vous appelez ça comme vous voulez, tous ceux qui regardent les médias dominants et dont on a abreuvé de trucs sur les GAFA, et dans la réalité, ça va faire rentrer un tout petit peu d'argent, mais pas beaucoup, et ça ira pas plus loin que ça. Donc il y a une vraie hypocrisie de la part de Monsieur le Maire en soutenant absolument cette nouvelle proposition qui est vraiment ridicule par rapport à ce qui était attendu. On reste sur les GAFA. Et il y a un autre truc en cours de négociation. Je dis truc parce que je ne vais pas utiliser le langage technocrate européen. En négociation et qui a été, c'est peut-être un record européen de la rapidité de négociation sur les questions de sécurité et de censure du web par rapport aux questions de terrorisme, puisqu'il y a en 3 mois, tout a été négocié, tout le monde est d'accord. Ça devrait être validé la semaine prochaine au niveau du Conseil de l'Union européenne. L'idée, c'est de surveiller encore plus Internet et de faire que ceux qui gèrent les contenus soient obligés de faire certaines choses en cas d'informations liées au terrorisme. Alors c'est quoi ? C'est obliger à retirer en moins d'une heure les contenus qualifiés comme terroristes par une autorité nationale. Donc la France, c'est un truc qui s'appelle l'OCLCTIC. Bon, la police chargée de la cybercriminalité, un acronyme encore incompréhensible. Il faut qu'ils mettent en place ce qu'ils appellent un point de contact, donc qui soit disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, justement pour pouvoir réagir. Et aussi l'instauration de mesures dites proactives pour censurer les contenus avant même leur signalement. Et là, on se dit, bon, c'est une loi. Alors d'abord, il n'y a aucune preuve que faire ça, ça a un quelconque impact sur les actions terroristes, déjà. Et puis deux, il y a un effet pervers énorme. C'est qu'écrire ça dans une directive européenne qui sera transcrite après en loi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ça va obliger les hébergeurs à faire ça. Et quel hébergeur est capable de faire ça ? Le petit hébergeur, il n'est pas capable d'avoir quelqu'un 24 sur 24, 7 jours sur 7, qui va regarder toutes les publications. Ça veut dire que, quelque part, l'État européen, qui n'existe pas, mais enfin, voilà, chaque État en Europe, va déléguer aux grandes plateformes qui vont tout récupérer, c'est-à-dire Google, Facebook, Twitter et les autres. Et ce sera elles seules qui seront capables de mettre en œuvre cette directive. Et ça va, du coup, donner à ces multinationales un pouvoir énorme et de faire disparaître les autres, les petits, les alternatifs, parce que aucun n'aura les moyens d'appliquer une telle directive. Donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Bien évidemment, M. le maire, comme les autres, sont d'accord avec ce qui est en négociation, ce qui est validé d'ailleurs par tout le monde, ce qui redémontre une fois de plus qu'en fait, ils n'ont rien contre les GAFA, ils font juste semblant pour que l'opinion publique dise « Regardez, ils s'attaquent à ces multinationales ». D'ailleurs, ça va tellement loin que des alternatives à ces GAFA, il en existe, or le gouvernement ne les met jamais en avant. même au sein du monde capitaliste. En moteur de recherche, il y a Qwant, un moteur de recherche français, même ou européen maintenant, qui est un truc capitaliste, mais qui ne retient pas les données, etc. Eh bien, aucun membre du gouvernement ne fait la promotion de ce truc-là. Pour dire il faut arrêter Google, tout ça. Donc il y a une vraie hypocrisie sur le numérique. En fait, ils sont bien contents de dialoguer et d'avoir ces multinationales avec eux, puisqu'ils s'en servent, et ils ne veulent surtout pas autre chose, en fait. Donc il y a une hypocrisie, voire du mensonge permanent sur ces sujets-là, de la part des gouvernants, alors on va dire du gouvernement actuel, mais du précédent aussi, des autres hommes politiques, c'est la même chose, puisque tout le monde valide à peu près ce qui est en train de se négocier au niveau de l'Europe. C'est encore un mois, je vais parler un petit truc sympa, on avait déjà parlé, ça y est, c'est fait. Normalement, François Compaoré devrait pouvoir être extradé de France. Je résume l'affaire, donc Compaoré, il s'est fait virer du pouvoir, donc au Burkina Faso, bon, alors c'est pas pour ça qu'il est poursuivi, il est allé faire un tour dans un pays à côté, et puis... il a effectué un voyage en France en octobre 2017 à l'aéroport Roissy, il s'est fait arrêter et du coup il est en France pour l'instant et le Burkina demande son extradition. Pour quelle raison demande-t-il son extradition? Alors en fait il y en a 50 000, mais c'est autour du procès de Norbert Zongo, donc journaliste qui a été assassiné avec trois de ses camarades le 13 décembre 1998 et sur lequel jusqu'à maintenant il n'y avait pas d'enquête. Le fait qu'il ait perdu le pouvoir, enfin qu'il soit fait éjecter du pouvoir, a relancé la justice du Burkina Faso, qui veut le faire comparaître parce qu'il est quand même, il faut le dire, responsable, au moins indirectement, de la mort de Norbert Zongo, journaliste, directeur de l'hebdomadaire L'Indépendant, et des trois personnes qui l'accompagnaient, qui ont été assassinées dans leur véhicule. Voilà. Bon. C'est une bonne nouvelle, la France a joué le jeu, c'est pas tous les jours que ça arrive, enfin, et on espère qu'il sera jugé. Alors pour le coup, il y a plein d'autres choses qui pourraient sortir aussi, parce qu'il a mis une belle dictature en place. Voilà. Trois petites infos drôles, parce que je l'avais intitulé ça, rions un peu avec les gilets jaunes, parce que c'est pas très drôle en ce moment et dans ce mouvement. Alors la première, c'est Laurent Wauquiez, qui est quand même notre... comment dirais-je, dirigeant là, de notre belle région, qui s'est fait choper en flagrant délit de mensonge. Alors ça arrive moult fois avec Laurent Wauquiez, parce qu'a priori il est champion du monde. On rappelle hein, que tout est artificiel chez lui, il fait semblant d'être la Haute-Loire, alors qu'il n'a pas grandi ici, il a appris l'accent de la Haute-Loire, hein, parce qu'il n'avait pas du tout l'accent.
Alors on dit la Haute-Loire, on ne dit pas la Haute-Loire. Hein.
La Haute-Loire.
D'ici à Lyon, on dit la Haute-Loire.
Moi je suis du 6-9, moi. Bon, ouais. Bref. Et il se fait teindre en blanc pour faire plus vieux, etc. Enfin, c'est une espèce de mensonge permanent. Et là, il était interviewé, il a dit... il a assuré n'avoir jamais porté de gilet jaune quand il y a eu l'incendie de la préfecture de Haute-Loire, enfin du Puy-en-Velay. Et instantanément, des gens ont montré une photo prise quelques jours avant avec son gilet jaune au milieu des gilets jaunes. Au début, il a nié, puis bon, au bout d'un moment, il a dit « Oui, alors j'avais oublié cet épisode, vous comprenez, je fais beaucoup de rencontres, enfin bon ». Il avait mis un gilet jaune, pris en flagrant délit de mensonge. C'est juste drôle, parce que si, ça va pas plus loin que ça, hein, mais voilà. Autre truc un peu drôle et triste, c'est Paris Match, aujourd'hui. Donc on est le 6 décembre, l'hebdomadaire paraît, avec une forcément sur des photos prises à Paris la semaine dernière, samedi dernier. Un gilet jaune avec son drapeau français. Alors forcément, ça ne va pas être quelqu'un d'extrême gauche ou un anarchiste, hein, parce que les gens de gauche, d'extrême gauche ou anarchistes, en général, ils ne portent pas des drapeaux nationalistes. Ils ont plutôt des drapeaux noirs ou des trucs comme ça. Bon, bref, on sent que le mec, il est pas top quand même sur la photo. Et il s'est rendu compte que c'était. Enfin, on s'est rendu compte que c'était Hervé Rissen, un auteur antisémite, un militant d'extrême droite, quoi. Alors forcément il y en a, et quand on porte un drapeau bleu, blanc, rouge, il y a plus de chances qu'on soit militant d'extrême droite. Bon, d'accord, mais en tout cas ce qu'on notera, c'est que Paris Match n'a pas enquêté, ne s'est pas posé de questions sur qui c'était, et ils sont pris en flagrant délit. Alors en fait, eux, leur réponse est « on n'a pas vu, on n'a pas fait attention ». On peut toujours douter un peu de cette réponse, si c'est leur métier quand même de vérifier. Bon, moi je ne connaissais pas la gueule du mec, donc j'aurais fait comme eux, mais bon quand même, hein, c'était un petit peu moche. Et puis, la fausse info du jour qui circule à mort, véhiculée notamment par Marine Le Pen sur le pacte de Marrakech, hein, qui est un truc avec des principes.
Alors, le terme n'existe pas en l'état. C'est bien de l'extrême droite dont vient cette terminologie. Le pacte de Marrakech n'existe pas en tant qu'appellation.
Voilà. C'est donc quelque chose qui est négocié au niveau de l'Europe pour donner des consignes et des aides pour la défense des droits de l'homme dans le cadre de migrants et pour aider aussi les pays à faire face aux migrants. C'est un truc, c'est juste des conseils, hein. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a rien dedans. Mais ça a été pris par l'extrême droite, notamment Marine Le Pen, qui a fait un réquisitoire violent contre le pacte avec de la fausse information du genre « ça va préparer une nouvelle étape de submersion ». Alors on n'a jamais vu d'étape de submersion du pays, mais bon, elle est toujours dans ce grand remplacement, la submersion, toutes ces choses-là, par ces hordes de barbares étrangères. C'est ce qu'elle sous-entend, ce qui est bien évidemment faux. Ça a été repris beaucoup par les sites d'extrême droite et par les sites Facebook de Gilets jaunes avec cette fausse information comme quoi ça va jusqu'... il y en a qui sont allés jusqu'à dire en fait une fois que c'est validé ce truc là Macron démissionne et la France n'existe plus et devient lui il redonne le pouvoir de la France à l'ONU. C'est un truc qui nous fait marrer, qui est pas possible dans les faits. Voilà, comme quoi le jaune, c'est pas la couleur de l'amour du prochain, et Marine Le Pen, c'est, a priori, elle est pas très fiable pour donner des informations, mais ça, on le savait déjà.
Oui, alors nous, on en a un petit peu débattu entre nous de cette affaire des gilets jaunes depuis quand même quelques semaines. Aujourd'hui, je t'ai fait une réflexion, je t'ai dit que j'ai trouvé que ça ressemblait au mouvement 5 étoiles.
C'est vrai, ça part en fait d'une constatation. Contestation un peu de droite et se greffe dessus des idées de gauche maintenant et moi je trouve que t'as raison, c'est du populisme et avec un peu de tout dedans comme l'est le mouvement 5 étoiles en Italie. C'est vrai qu'il leur manque un leader quand même.
Alors c'est effectivement, tu as tout à fait raison, il manque un leader.
Charismatique.
En tout cas un leader tout court, charismatique en général, ça va avec le leadership.
Leader, c'est vrai.
Mais c'est vrai que on a quand même ces revendications qui sont parties de oh là là, l'essence, le diesel, tout ça, machin, vous nous faites trop payer, et nous on est des automobilistes, laissez-nous polluer, tout à fait, ça va devenir une chanson. Et puis on s'est retrouvés après, il y a trop de taxes, on est trop taxés, ça va plus du tout, on veut du pouvoir d'achat, on peut pas payer nos factures.
Jusqu'à remettre l'ISF.
Et puis, ensuite, on se retrouve avec une liste de revendications à la Prévert. Quand je dis ça, c'est parce que moi, au début, j'ai été voir ça alors sur des sites de médias nationaux, Le Monde, France Info et tout ça. Et puis, alors là, je comprends pas parce qu'on nous fait des listes avec des tirets, mais on nous dit jamais d'où sont sorties ces listes. Parce qu'à un moment, les médias pourraient nous dire, quand j'ai été voir sur Le Monde ou France Info, on a été récupérer cette liste-là sur telle page Facebook. Parce que c'est bien de page Facebook dont ça vient. Telle liste-là sur telle page Facebook. Et puis, on a essayé de mettre tout ça dans un bloc, et puis on vous le rend. Non, on nous a fait des listes à la Prévert sans nous expliquer d'où elles venaient, et moi j'ai trouvé ça problématique. Parce qu'on pouvait passer de... Alors sur les migrants, c'est très drôle, puis il y en avait une, c'était... Il faut traiter correctement les migrants, par contre, il faut les renvoyer chez eux quand ils n'ont pas obtenu le droit de rester. Donc c'est marrant parce que évidemment, alors on sait pas bien si c'était dans la même page Facebook quand on lisait au début cette liste à la Prévert ou si ça a été remis dans un bloc un peu thématique par certains médias. Et puis d'un seul coup effectivement on a vu arriver cette contestation contre le libéralisme de monsieur Macron avec il faut remettre les impôts sur les riches, il faut plus d'aide aux handicapés, mais bien évidemment
augmenter les salaires,
augmenter le SMIC. Alors augmenter les salaires c'est pas tant que ça, c'est plutôt augmenter le SMIC. Il faut plus de trucs de proximité, plus de machin, mais en même temps, il faut moins d'impôts. Alors c'est là où je trouve que ça devient populiste comme le 5 étoiles, c'est qu'à la fois, on va payer moins d'impôts, mais à la fois, il faut plus de services.
Ceci dit, c'est pas une équation irrésolvable. Il suffit d'enlever l'argent là où ça nous sert pas, à l'armée, on arrête les aides aux entreprises, et là, on a...
Sauf que moi, j'ai vu dans les revendications qu'il fallait
plus d'armées pour les flics et l'armée.
J'entends bien qu'il y a des policiers aujourd'hui qui roulent dans des poubelles. Il faut le savoir, on a des fonctionnaires qui roulent dans des poubelles.
Mais comme elles vont être brûlées, ces poubelles, c'est pas très grave.
Bon, moi, je m'en fiche personnellement. Mais n'empêche qu'on pourrait simplement analyser. Moi, j'analyse un fait. On a aujourd'hui des fonctionnaires qui roulent dans des poubelles.
D'ailleurs, tu as dit les flics, mais pas que les flics. Les fonctionnaires tout court.
Voilà, on sait que les gens roulent dans des poubelles quand ils sont fonctionnaires. Et les flics, qui ont un gros parc automobile, quand même, parce qu'il faut bien mettre aussi tous les gens qu'on arrête dans des petits fourgons, ont un parc d'automobiles qui est complètement pourri. Et ça, on le sait.
Et du coup, c'est pour ça que peut-être que.
Donc, ça arrive dans les revendications.
Les gilets jaunes brûlent les voitures. Ils brûlent les voitures pourries.
Mais moi, je suis persuadée que, de toute façon, quand on casse des trucs, on fait revivre l'économie, puisque il y a les gens pensent tout de suite à l'assurance, tout ça. Mais on fait revivre l'économie parce que déjà, il faut des gens qui viennent remettre en place un abribus.
Ouais, tu veux
il
dire
faut
que,
construire l'abribus, en fait, part, donc il y a une belle production.
Quelque part, ils veulent de la croissance, du coup, ils sont libéraux quelque part.
Je ne sais pas si c'est contre-productif dans ce terme-là. Contre la croissance
en fait,
et contre la consommation.
Ouais.
Alors après, on voit aussi des choses intéressantes. Par exemple, on va bloquer un centre commercial. Moi, je suis pour la décroissance, donc je suis tout à fait pour qu'on arrête de consommer pendant plusieurs week-ends d'affilée, surtout en période
avant
de
Noël.
Surconsommation, c'est-à-dire juste avant Noël, avant les fêtes de fin d'année. Moi, je suis absolument pour. Sauf que je me rends compte qu'on n'est pas forcément dans les mêmes idées du pourquoi et du comment, et qu'il y en a peu des gilets jaunes qui vont être dans la décroissance. Ben voilà, rappelons, au début, il y a quand même un mouvement automobiliste.
Ouais.
Et puis, il y a des gilets jaunes qui sont allés rejoindre les manifestations des étudiants pour le droit des étudiants étrangers à rester en France, que je le dis aussi bêtement, mais parce que quand tes frais d'université augmentent, ben, t'as une chance de plus pouvoir venir en France. Donc je trouve ça plutôt bien. Bon, à Lyon, ça a fait marrer parce qu'en même temps, il y a l'extrême droite qui avait rejoint le cortège des étudiants avant qu'ils se rendent compte que à Mince, on parlait d'étrangers et que oui, on parle aussi d'Africains. Et que ça leur plaisait pas. Ils se sont fait mettre dehors, en tout cas, par une partie des gens qui ne voulaient pas de cette extrême droite dans ce cortège universitaire. Donc les choses s'organisent aussi pour la gestion de cortèges propre, je vais le dire comme ça, je ne sais pas comment le dire autrement. Et puis, il y a aussi des critiques qui sont apparues un petit peu sur, quand même, tous ces barrages, c'est que ça manquait d'assemblée générale. C'est-à-dire qu'on a l'habitude,
quand
même,
d'entendre...
Alors, ça commence à apparaître sur certains lieux, mais parce qu'on sent aussi qu'il y a peut-être des gens qui apparaissent, ou qu'il y a une organisation, ou que les gens entendent les critiques, mais c'est vrai qu'à un moment, il n'y avait pas d'assemblée générale. Et quand même, quand on veut en tout cas faire une révolution, même une rébellion, ben, il y a un moment, quand on parle du peuple, il faut qu'il y ait assemblée générale, il faut qu'il y ait démocratie, et que ben, tous et toutes, on s'entende et qu'on débatte et puis qu'on construise autre chose et un après. Parce que là, si c'est le but, c'est juste de nous enlever les taxes, on va pas aller bien loin, hein, parce qu'il va pas rester grand-chose derrière, et puis que ça empêchera pas à M. Macron d'être toujours là, parce que de toute façon, si on continue à avoir une démocratie parlementaire basée sur ce principe-là, je vois pas ce qui va se passer. Ce qui est intéressant quand même, c'est de se rappeler, et ça c'est quand même rappelé pas mal, je trouve, quand on écoute un petit peu le débat de certains gilets jaunes, hommes ou femmes, qui ont été votés, c'est que les gens, quand on leur demande s'ils ont voté M. Macron, certains disent non, surtout pas, alors que bon, on n'est pas sûr que ce soit pas le cas. Puis certains et certaines disent bah oui, mais enfin, je vous rappelle qu'à l'époque, on n'a pas eu le choix. C'est-à-dire qu'il a été élu avec rien, M. Macron.
Non, avec 22% au départ de gens qui sont favorables à lui, et après, effectivement.
Effectivement, après, avec pas grand-chose. Donc, effectivement, qu'il a une légitimité qui peut être remise en question constamment.
Oui, mais ça fait un moment que la légitimité démocratique, elle ne marche pas bien. Ce qui n'empêche pas de gouverner.
Non, mais voilà, ça aussi, c'est des débats qu'on pourrait avoir aussi sur notre démocratie. Ça, on l'entend pas trop, parce qu'il ne s'agit pas non plus de transformer notre République.
Si, hein. Parce que du coup, comme ils ont été quand même, les gilets jaunes, pas mal gangrénés par la France insoumise, il faut quand même le dire
ça,
aussi. Du coup, est apparue l'idée de la 6e République,
oui,
tout ça. Donc
oui.
Ça aussi, c'est apparu par l'incruste de
Ah, Ruffin, a beaucoup, monsieur Ruffin, pardon, excusez-moi,
ouais.
A beaucoup...
Ce qui est plutôt pas mal,
parce
qu'effectivement, casser cette 5e République, le président n'a pas de sens, il faut un régime parlementaire simple.
Surtout un empereur.
Si on est républicain. Mais...
Oui, mais enfin, on peut avoir une démocratie collective qui soit déjà meilleure, ça on s'entend. C'est vrai que la France insoumise est revenue aussi sur certains barrages, sur certains lieux. Et puis, moi j'ai beaucoup rigolé cette semaine parce que j'ai fait de la zapette télévisée. Et donc, chaque chaîne, chaque journal avait son gilet jaune ou ses gilets jaunes. C'est-à-dire que c'était un moment du ridicule parce qu'on ne savait pas qui représentait qui dans ces médias.
Oui, par principe, ce genre de mouvement, il n'y a personne qui représente.
Ah ben non, parce que je vous rappelle que ceux et celles qui sont allés rencontrer les chefs là-haut à la capitale, ils ont reçu carrément des menaces de mort. C'est pas juste dans l'engueulade, c'est de la menace de mort. Donc bon, ça pose quand même quelques questionnements. Alors certes, en même temps, ils représentaient qui eux-mêmes, peut-être leur barrage, mais c'est pas clair non plus. Monsieur Macron et son équipe jouent largement sur cette question-là.
D'ailleurs, ils ont un intérêt à jouer là-dessus parce que il y a une idée qui court chez les gilets jaunes de monter une liste aux européennes, ce qui intéresse Macron. Parce que s'ils montent une liste gilets jaunes, ils vont récupérer une partie des voix du Rassemblement National. Ce qui fait qu'il y a des chances que La République En Marche sorte en tête, parce qu'il y a division chez les populistes, du coup.
Et c'est là où j'en reviens à mon mouvement 5 étoiles de tout à l'heure, effectivement.
Il
oui,
y a un intérêt de Macron, finalement, à ce que ça se transforme en mouvement politique, tout ça.
Par contre,
intérêt électoraliste à court terme.
Je remarque qu'ils avaient tous leurs gilets jaunes. Par contre, ils n'avaient pas beaucoup leurs lycéens et leurs étudiants. Ça, alors évidemment, on sait que chez les lycéens, c'est pas facile, parce qu'un lycéen peut foutre le feu aux bagnoles le matin. Moi, je l'ai vu dans mon quartier où je travaille. Et elle est en cours l'après-midi. donc, c'est surprenant, les lycéens et les lycéennes, mais moi, je ne leur reproche rien. Ils ont le droit d'être énervés, ils ont le droit de se fâcher, ils ont le droit d'être en colère, parce que quand on a 16, 17 ans, 18 ans, et qu'on est déjà traité comme de la merde, c'est pas facile ensuite d'attaquer la vie active, ce qui n'est déjà pas un plaisir en soi quand on s'y trouve. Alors, le futur, hein, nos futurs. Tout ça là. Donc toujours est-il que, par contre, les lycéens, on a beaucoup moins, les lycéennes, on a beaucoup moins parlé d'eux dans les médias.
Ouais. On va faire un petit agenda avant de se quitter, laisser la place à l'émission suivante. On a été un peu perturbés puisqu'il en a passé 5 minutes à essayer de régler les problèmes
techniques. 4
minutes,
35 secondes voilà. Et nous en excusons.
Voilà. Désolé, des problèmes techniques, ça arrive. Et c'était plus compliqué que prévu.
Vous êtes sur Radio Canu, bienvenue.
Voilà. Radio autogérée et des fois déréglée. Donc, sur les mobilisations lycéennes, à Lyon, demain, il y a une manif. Le 7 décembre, on sera à 9h30 place Jean Massé avec une AG ensuite à 11h à la Bourse du Travail. Il y a un gros mouvement aussi étudiant qui devrait se remettre en place le 11 décembre prochain. La marche pour le climat est maintenue à Lyon, elle est ridiculement éloignée, donc ça aura lieu à 10h30 place Jean Massé samedi. Et il y a une réunion à la Griffe demain soir pour parler d'une convergence des luttes avec les Gilets jaunes et les anarchistes à 19h demain.
Voilà, j'ai pas eu le temps de vous parler de cet ouvrage de Azelm Ilmi, dont je vous parlerai la semaine prochaine.
Voilà, on laisse la place à l'émission suivante. À bientôt, dans de meilleures conditions techniques.
Bonne soirée à tous et toutes. Ciao.